Quelques mots sur les open badges. Qu'est-ce que c'est qu'un open badge? Donc, les open badges sont nés en 2011, lors de la rencontre de la Fondation MacArthur et de la Fondation Mozilla en Europe. Ça se passait lors de la MozFest qui est à Barcelone. Et ils se posent la question, comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître les apprentissages informels? Et donc, ils se sont dit, il y aura un moyen quand même bien simple. Vous faites tous des photos avec vos smartphones. Dans les photos de vos smartphones, il y a des métadonnées. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas une image dans laquelle on mettrait des métadonnées? Et en plus de ça, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse rendre la déclaration qu'on va retrouver à l'intérieur de cette image qui représente un apprentissage, si on pouvait la rendre infalsifiable. Donc du coup, gros avantage par rapport au diplôme qu'on a sur le papier, où avec Photoshop, on peut faire un faux diplôme. Donc premier avantage qu'ils imaginaient pour le badge, c'était cette capacité de rendre les choses infalsifiables. Et donc quelles sont les métadonnées qu'ils pensaient mettre dans le badge? Là, j'ai mis les principales, c'est qui a émis le badge, qui l'a reçu, quels sont les critères d'attribution du badge, quelles sont les preuves, et puis d'autres métadonnées, comme par exemple une date de péremption du badge, une géolocalisation. On peut rajouter autant de métadonnées qu'on veut dans le badge, mais là, j'ai mis les principales métadonnées. Pour l'identité du récepteur du badge, aujourd'hui, on utilise l'adresse de courrier électronique, mais demain, ce sera plutôt, avec les badges signés, on utilisera la clé publique de la personne qui a un badge. Et donc, le badge, qu'est-ce qu'on fait pour faire un badge? On prend une image et on met les métadonnées dedans. Là, on a créé le badge. Et puis ensuite, faut bien l'envoyer à la personne. Donc là, j'ai représenté l'émetteur, le récepteur et le consommateur de badge. Donc on envoie le badge à la personne. Et puis, Mozilla avait développé quelque chose qu'ils appelaient le backpack, que nos amis québécois appellent le sac à badge. Et donc, les apprenants, ils mettaient leur badge dans le sac à badge. Voilà, donc, grosso modo, le processus des badges était quand même très simple. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais très similaire à l'approche traditionnelle des diplômes. Un diplôme, on a un émetteur du diplôme, quelqu'un qui prend son diplôme, qui va le mettre dans son sac et ensuite qui va pouvoir le présenter, les consommateurs, c'est un employeur potentiel, peut-être une autre université si on veut aller faire des études dans une autre université. Et ce dont on s'est rendu compte, ce qui était intéressant avec les badges, c'est qu'on avait d'un côté, d'un point de vue technique, on avait des spécifications ouvertes, open source en anglais, on avait des technologies ouvertes, c'est-à-dire que non seulement les spécifications, mais aussi le code, au départ, était ouvert. Le backpack, le sac à badge, le code était en open source. Mais on avait une infrastructure qui était extrêmement asymétrique. C'est-à-dire que, vous avez bien vu, il y avait la personne qui émettait le badge n'avait pas besoin d'avoir un backpack. Par contre, la personne qui recevait le badge avait besoin d'avoir un backpack. Pourquoi? Parce qu'on pensait que pour émettre un badge, c'était naturellement une autorité qui allait le faire, une université, une école, quelqu'un qui avait déjà une autorité reconnue. Donc la personne n'avait le droit que de recevoir des badges. C'est un petit peu, si on prend le courrier électronique, imaginez que vous avez une application de courrier électronique qui permet de lire le courrier, de le stocker, mais que pour envoyer un courrier à quelqu'un, il faut que vous ayez un serveur quelque part. Et là, on n'est pas vraiment dans un système de communication symétrique, on est plutôt dans un système de propagande. Et puis, on avait un système de reconnaissance qui n'était pas vraiment ouvert, qui était ce que j'appelle entre-ouvert. Et parce que la question, c'est qui a le droit de reconnaître? Et donc, le badge avait comme espèce de postulat implicite. C'était implicite, mais c'était seule une autorité a le droit de reconnaître. Et donc, c'est posé la question de la reconnaissance. Parce que vous avez vu, j'ai mis un doigt et la lune. Vous connaissez ce proverbe chinois, attribué aux Chinois, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Je pense que le doigt, c'est vraiment peut-être la chose qui est la plus intéressante. En réalité, c'est la personne. La capacité de désigner les choses, c'est une capacité proprement humaine. La lune, elle ne désignera jamais rien. Donc s'intéresser à la capacité de reconnaître, à la capacité de désigner, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Et ce qui a permis le badge qui était conçu au départ pour rendre visibles les apprentissages informels, ce qu'il faisait en réalité, c'est qu'il rendait visibles les reconnaissances. Et donc on pouvait aussi, y compris, rendre visibles les reconnaissances informelles. D'où l'idée de reconnaissance ouverte. Et donc, si on prend un petit peu l'historique des badges, au début, en 2011, la problématique, c'était comment rendre les apprentissages informels visibles. En 2017, est arrivée une nouvelle spécification, la spécification 2.0 des badges, qui permettait de faire que chacun avait la possibilité d'émettre et de recevoir des reconnaissances. Et donc, on était dans une logique de comment rendre visibles les reconnaissances informelles. Et donc, c'est bien de rendre visible tout ça, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière ? C'est comment on va pouvoir les rendre actionnables ? Parce que si c'est simplement pour les mettre dans son backpack, les afficher dans LinkedIn et Facebook, c'est sans grand intérêt. Moi, bon, c'est un petit intérêt, mais dire par rapport à ce qu'on avait avant, c'est pas un intérêt phénoménal. Donc, si on regarde maintenant la question de qui prend l'initiative, au tout début du badge, l'entité qui prenait l'initiative, c'était l'émetteur du badge. C'était l'émetteur qui décidait, je vous envoie un badge. Et puis, des gens se sont posés des questions, en particulier Eric Roussel qui est là. Et il s'est rendu compte que quand on envoyait des badges aux gens, il y avait peut-être 20% des gens qui allaient chercher le badge. Et donc, ils ont décidé, à Discandum, de mettre en place une nouvelle approche pour distribuer les badges, qui est de demander un badge. Et donc, l'émetteur du badge, c'est plus simplement une autorité qui émet un badge, mais la personne fait une demande du badge, et ensuite, la demande de badge, elle peut être validée par les pairs ou par des experts. On peut avoir une liste d'experts qui vont relire le badge, le valider, et on peut établir des règles. Par exemple, il faut qu'il y ait X personnes qui aient tel badge, qui aient validé le badge, pour que ce badge soit accepté. Et donc, c'était intéressant. Le simple fait de décentrer le badge, la demande de badge, l'émission de badge, de l'émetteur vers le demandeur, déjà, ça donnait un peu de pouvoir d'agir. On pourra en discuter de ça. Mais déjà, le pouvoir d'initiative, au moins, de demander le badge. Donc, c'était un changement intéressant et avec des résultats réels. Hein, c'est-à-dire qu'on passait de 20 à 80% de badges distribués dans des contextes tout à fait similaires. Et puis, maintenant, avec la notion d'endossement, il n'y a plus la notion d'émetteur et de récepteur de badge. On est tous émetteurs et récepteurs de badge, comme on est sur eBay, on est acheteur, vendeur, avec le courrier électronique, on écrit, on reçoit des courriers électroniques. Maintenant, grâce à la nouvelle spécification, on a réduit la symétrie initiale, qui était la symétrie qu'on trouvait dans les premières versions des Open Badge. Et donc, maintenant, ce qui est intéressant avec la notion d'endossement, l'endossement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand on émet un badge, ça veut dire qu'on endosse quelqu'un, d'une certaine façon. Hein, c'est-à-dire, l'émetteur du badge dit, je te fais confiance pour ceci, ceci ou cela. Et là, maintenant, donc, on a besoin de deux identifiants, l'identifiant de l'entité qui reconnaît et l'identifiant de l'identité qui est reconnue. Mais l'identité qui est reconnu, ça peut être n'importe quoi. Il suffit qu'il y ait un identifiant. Donc ça peut être un badge, on peut reconnaître un badge, on peut reconnaître une personne. Hein, on pourrait par exemple dire « je reconnais en utilisant comme récepteur l'adresse, l'URL de son compte LinkedIn, par exemple, du compte LinkedIn d'une personne. » On pourrait endosser des coordonnées GPS, par exemple. On pourrait reconnaître absolument tout et n'importe quoi. Et ça peut être intéressant dans un cadre pédagogique aussi. C'est-à-dire que quand on veut identifier des ressources pédagogiques qui sont intéressantes, si on veut identifier des ressources qui ne sont pas des fake news, par exemple, là, on pourrait très bien utiliser cette technologie de reconnaissance pour rendre visibles ces éléments de confiance qu'on a dans les personnes, dans les informations ou les organisations. Donc ça, c'est vraiment un pas phénoménal qui a été franchi avec la spécification 2.0. Il faudra que les technologies suivent derrière. On n'en est pas encore là. Mais je pense que dans l'année 2018, on devrait être capable de montrer comment ces choses-là peuvent fonctionner. Donc voilà, notre programme, c'est en 2001, on a un projet qui s'appelle MIRVA. MIRVA, c'est l'acronyme pour Making Informal Recognition Visible and Actionable, comment rendre les reconnaissances informelles visibles et actionnables. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème, hein, c'est-à-dire qu'on sait mettre un badge, on sait stocker un badge, on sait le mettre dans LinkedIn, Facebook, et alors quoi, et après quoi, à quoi ça sert vraiment? Hein, on nous dit, ah, vous allez pouvoir le montrer à un employeur. D'accord, on va pouvoir monter 3, 4 badges, 10 badges. Mais si on commence à avoir beaucoup, beaucoup de badges, beaucoup de marques de reconnaissance, est-ce qu'on va pouvoir en montrer 100, 1000? C'est-à-dire qu'il va falloir trouver d'autres dispositifs pour pouvoir rendre visibles nos reconnaissances. Et donc, moi, ce que je propose comme hypothèse de travail, c'est de se dire que finalement, les badges nous permettent de rendre visible notre capital social. Le capital social pour l'OCDE, c'est la confiance qu'on a les uns dans les autres. Et donc, ce capital qu'on a accumulé dans notre sac à badges, bah, pourquoi est-ce qu'on ne l'investirait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas dans des endroits qui nous permettraient de nous rapporter quelque chose, des services, aussi bien dans l'éducation, la culture, l'emploi? Et c'est cette idée de mutualiser, un petit peu comme on donne notre sang à des banques de sang parce que ça va rendre service à d'autres, et bien on peut aussi mettre nos données quelque part parce que ça peut rendre service à la communauté et à nous aussi. Et cette idée-là, c'est vraiment de se servir du badge avec cette idée de l'ensemble des reconnaissances qu'on a pu recevoir. Si vous regardez un CV aujourd'hui, un CV, c'est les reconnaissances que vous avez reçues. Tous les diplômes dont vous avez parlé ce matin, c'est ça, c'est des reconnaissances qu'on a reçues. Mais quid des reconnaissances qu'on a données aux autres? Parce qu'on a un problème fondamental dans le système éducatif en France, peut-être moins ailleurs, certainement moins en Finlande, c'est que les seules reconnaissances qui existent dans notre système, c'est les reconnaissances institutionnelles ou les notes. L'idée que la personne est un agent reconnaissant, qu'elle produit de la reconnaissance, est quelque chose qui est complètement occulté. Or, si on réfléchit un petit peu, j'y reviendrai après, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la vie même. Donc, on peut imaginer qu'on peut faire une espèce d'arithmétique de la reconnaissance, qu'on peut servir des badges pour rendre visible le capital social. Donc, mon capital social, c'est l'ensemble des reconnaissances que j'ai pu recevoir et celles que j'ai pu donner. Ensuite, on peut faire le capital social d'un groupe, d'une entreprise, d'une région. Et là, il y a un intérêt, c'est-à-dire qu'on va se servir du badge vraiment comme de quelque chose qui va permettre de rendre visible et ensuite d'investir ce capital social. Et donc, voilà, quand on pense en 2011, quand on faisait du badge, on était dans ce que les Anglais appellent « spray and pray ». On dit ça en éducation. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est ça, c'est du « spray and pray ». Je raconte des choses et puis j'espère que ça va produire quelque chose derrière. Il y a même une expression qui était un peu plus violente avec les badges, c'était l'expression « carpet badging ». Vous savez, il y a « carpet bombing », vous savez, comme les Américains faisaient très bien avec leur bombe au napalm ou leur super bombe en Irak. Hein, voilà, c'est pas du carpet bombing, c'est carpet badging. Vraiment, on arrose avec des badges. Voilà, mais ça veut dire que quand on arrose avec des badges, le pouvoir est entre les mains de celui qui arrose, quoi. Hein, c'est pas du côté de celui qui reçoit les bombes. Et donc, voilà, nous, ce qu'on aimerait en 2020, c'est avoir cette capacité d'investir ce qu'on a produit. Donc, c'est beau de distribuer des badges. Pensons à la capacité de pouvoir en faire quelque chose. Et donc, c'est cette idée de... Alors, vous savez, en anglais, il y a Mutual Fund Trust. Hein, mais là, j'ai inversé les deux mots pour que ça vienne. Mutual Trust, hein, c'est la confiance mutuelle et que ce soit des fonds de confiance mutuelle. Et donc, se dire qu'on serait parfaitement capable de bâtir des espaces, hein, qui soient des espaces dans lesquels on va à la fois produire de la reconnaissance et exploiter cette reconnaissance. Donc, vous imaginez ce Mutual Trust Fund un petit peu comme vous avez un backpack, hein, j'avais parlé du backpack avant dans lequel on stockait ses badges, mais qui serait une espèce de backpack collectif. Et en réalité, c'est ce qui se passe déjà, et je vais vous montrer des exemples de ça après. Donc, vraiment cette idée de... Parce qu'il y a quand même une espèce de paradoxe dans le badge. C'est-à-dire que les badges sont produits dans un espace collectif et ensuite, on va les mettre dans son backpack, dans son passeport. Et donc, on perd le contexte dans lequel il a été produit, et puis ensuite, on va le mettre ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas ces espaces, on ne rendrait pas visibles, on ne matérialiserait pas ces espaces dans lesquels ils sont à la fois produits et consommés, et à partir de, et dans ces espaces-là, on pourrait télécharger des apps, comme on aurait des app stores pour ces espaces. Et ça, c'est possible, on travaille là-dessus. Et donc, un open badge, de notre point de vue, c'est bien plus qu'un certificat ou une attestation sans papier, hein. Ce sont des devises de la confiance, d'une économie de la confiance et de la reconnaissance. Alors, quelques mots sur la reconnaissance, parce que je parle de badge comme outil de la reconnaissance, c'est peut-être bien de préciser ça. Alors, je cite Axel Honneth, qui est le directeur de l'école de Francfort, après Habermas, et qui dit « la reconnaissance précède la connaissance ». Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument fondamental, c'est-à-dire que si on accepte cette idée que la reconnaissance précède la connaissance, nous sommes dans des espaces de savoir, des espaces où on produit de la connaissance, c'est-à-dire que la reconnaissance joue un jeu, là. Alors, quid de la reconnaissance dans les espaces de connaissance ? Il y a un autre philosophe que vous connaissez sans doute plus pour ça d'entre vous, qui est Stephen Downes. Stephen Downes, il a une lettre hebdomadaire. C'est aussi lui qui est un petit peu à l'origine des MOOC, en tout cas la pensée de la connaissance comme étant quelque chose non pas simplement quelque chose qu'on produit, mais ça se passe à travers les connexions, l'approche connectiviste de la connaissance. C'est Stephen Downes qui dirait derrière ça. Et lui, ce qu'il dit, c'est que la connaissance n'est pas un objet ou un objectif, elle n'est pas discrète, elle n'est pas un agent causal, elle est émergente, ce qui signifie qu'elle n'existe qu'en vertu d'un processus de reconnaissance en tant qu'interprétation subjective. Là encore, ça veut dire que la reconnaissance est au cœur des processus de connaissance. Et donc, quand on va penser l'utilisation des badges ou de la reconnaissance à l'intérieur d'un espace éducatif, ce n'est pas simplement les badges de compétence. Tiens, j'ai reconnu ta compétence. Ça veut dire que la personne elle-même à qui on va attribuer un badge de compétence, elle est aussi un agent reconnaissant. Et donc, comme il y avait beaucoup de projets de badge qui existaient, et puis que nos amis américains, ils ont beaucoup de tendance à l'emphase, avec des phrases du genre « The open badges, they empower the learner », hein, donc ça donne le pouvoir d'agir aux apprenants. En réalité, c'était du pipeau. Dans les premières applications open badge, le pouvoir était vraiment entre les mains de ceux qui distribuaient les badges. Il ne faut pas dire que parce qu'on a distribué des badges à des gens, les gens qui ont reçu les badges, ils sont empouvoirés. Le pouvoir, c'est entre celui qui a la capacité de reconnaître. D'ailleurs, on voit bien, il y a des troubles psychologiques terribles. Si un enfant, par exemple, n'est pas reconnu, enfin bon, on parlera, on pourrait parler de ça après. Mais, et donc, ce que j'ai voulu faire, ça, c'est essayer d'ordonner un petit peu toutes les expériences open badge qui avaient vu le jour depuis 2011. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est établir ce que j'appelle le plan de la reconnaissance. Alors, le plan de la reconnaissance, il a deux axes. L'axe formel, qui est plutôt centré sur l'institution, à non formel, qui est plutôt centré sur la communauté. Traditionnel, qui est plutôt orienté vers le passé et qui est plutôt statique, Un diplôme, c'est statique, ça ne bouge pas, ça décrit ce que vous avez fait dans le passé. Et puis, l'autre dimension qui est tournée vers le futur et dynamique. Et donc, ça définit quatre cadrans de reconnaissance. Le cadran qui est le cadran où on est dans la normalisation, plutôt dans l'inclusion, dans l'équipement ou dans l'émancipation. En anglais, je mets empowerment, on est plutôt là. En français, le mot empouvoiré n'existe pas. Alors j'ai mis émanciper, c'est une approximation, mais je préfère émanciper à responsabiliser tous ces faux, ou un mot plus long comme donner le pouvoir d'agir, ou prendre le pouvoir d'agir. Et donc, ça, c'est intéressant, parce que quand on regarde les projets Open Badge, plus de 90% des projets Open Badge, ils sont dans le cadran en bas à gauche, c'est-à-dire ils sont dans la normalisation. Et si vous réfléchissez par rapport à des référentiels de compétences, et j'en ai produit, et j'en produirai encore, je suis pour les référentiels de compétences, il y a un danger, il y a un très, très grave danger, un danger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais à rester dans le cadran de la normalisation. Et il y a des gens qui utilisent les badges, qui utilisent aussi les référentiels de compétences et qui se situent dans les autres cadrans, j'en parlerai. Et donc, quand j'ai regardé un petit peu tous les badges qui existaient, voilà, par exemple, on parlait des badges avec les micro-credentials, les micro-crédits, les nano-diplômes, etc. On est dans le cadran en bas à gauche. Hein. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est d'un intérêt relativement limité. Quand on regarde les badges des scouts, par exemple, ce n'est pas tant des badges de compétences que des badges pour rentrer à l'intérieur d'une communauté. Et donc, c'est plutôt des badges autour de l'inclusion. C'est des badges concrets en sens de communauté. Hein, ce n'est pas un badge de compétences. Les badges qui seraient non traditionnels, qui resteraient quand même encore dans des aspects formels, l'exemple que j'utilise souvent, c'est celui du Tamagotchi. C'est se dire, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un badge ? Une fois qu'on l'a reçu, il faudrait le nourrir pour qu'il continue de vivre. Comment est-ce qu'on peut nourrir un badge ? Par exemple, avec des endossements. Ou par exemple, en obtenant d'autres badges qui permettent de nourrir ce badge-là. Et donc se servir de ce badge-là comme étant une espèce d'outil de construction. Moi, je pense à un truc tout bête. Lorsqu'on avait un prix à l'école, on avait certainement le bout de papier qu'on affichait sur le mur de sa chambre, mais on avait aussi un livre. Et un livre, c'était une ouverture vers le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des badges qui nous disent « Maintenant que tu as fait ça, voilà toutes les choses que tu peux faire, les choses que tu peux lire, les choses que tu vas pouvoir réaliser. » Au lieu de nous raconter simplement ce qu'on a fait avant. Et la plupart des badges, c'est ça, ils nous racontent ce qu'on a fait avant, ils nous décrivent le passé, ils nous projettent pas vers le futur. Et puis, ça peut être carrément un badge qui est un badge dans lequel je suis Carole, j'ai 14 ans, je veux devenir médecin, je demande mon badge de médecin. C'est pas un badge de médecin, il n'a pas été encore validé par la faculté, mais j'ai mon badge de médecin. Avec ce badge de médecin, je vais aller voir la Croix-Rouge. Et puis je vais demander à faire un stage à la Croix-Rouge, je vais aller voir MSF, et je vais demander à faire un stage. Et puis je vais me servir de ce badge-là comme une espèce d'agrégateur, comme une projection dans le futur. Et lorsque je voudrais faire des études de médecine ou de sage-femme, je pourrais venir avec mon badge. Et là, je montrerai que je ne suis pas un fort en thème, que je suis une bête à concours, mais que j'ai un vrai engagement. Et donc, c'est cette idée... Alors, bien sûr, le badge, au début, comme c'était un badge qui était émis par une institution... Alors, c'était toujours l'émetteur qui avait la... Il faut que le badge il soit à tout prix signé par l'émetteur. Mais pourquoi ne pas imaginer un badge qui est d'abord signé par la personne qui le demande et qui ensuite est validé par la personne qui le valide ou qui accrédite. Et ça c'est qu'un système technologique à mettre en place, c'est pas compliqué, il suffit de le vouloir. Et comme avec les fichiers, on a deux types d'images avec les badges. On a les images de format PNG ou de format SVG qui sont des formats... vectoriel. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement imaginer que l'image du badge varie en fonction des métadonnées qu'il y a dans le badge. Et donc de faire qu'on pourrait dire on a un badge à 80%, on a un badge qui est plus ou moins contrasté, on peut imaginer plein de choses. Donc on pourrait imaginer un badge de médecin qui est un peu pâle ou avec apprenti médecin, etc. Et puis ensuite en fonction des endossements jusqu'à la certification. Donc voilà cette idée de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est tout ça. C'est la capacité aussi de reconnaître les autres, de se faire reconnaître, de se projeter dans le futur. Donc c'est tout ça le plan de la reconnaissance. Et donc, voilà, si on regarde un peu plus en détail, tous ces différents badges-là, par exemple, on a travaillé avec l'espace Mendès France, qui est l'équivalent du Dôme à Caen, qui est un centre de diffusion de la culture scientifique. Pourquoi pas faire des badges qui soient des badges de la découverte, hein. Voilà. Il y a un palais de la découverte. Voilà. Badge d'affiliation, etc. Et donc, nous, ce qu'on aimerait vraiment faire avec les badges, c'est se dire... C'est bien de faire des choses qui représentent le passé, on sait déjà le faire, donc on veut utiliser des badges pour faire ce qu'on faisait avec le papier. Passons à des choses qui sont plutôt vers le dynamique, vers le futur. Hein. exploitons d'autres possibilités qui nous sont offertes par les technologies, qu'on arrive à rendre visibles les reconnaissances informelles, et pas simplement les apprentissages informels. Là, on a quelque chose qui est tout à fait intéressant à exploiter. Et donc, cette idée de faire de chacun des agents de la reconnaissance, hein, de ne pas dire que la reconnaissance ne peut provenir que d'une autorité, nous sommes tous des agents reconnaissants. Et d'ailleurs, si on ne reconnaissait pas, on n'apprendrait pas. D'ailleurs, ça fait penser à une phrase de James Gleick qui dit, elle se traduit très très mal en français, je suis désolé, je vais le dire en anglais, c'est « Life learned itself into existence ». La vie s'est apprise elle-même dans l'existence. Et ça, c'est une belle formule pour rendre compte du lien organique qui est entre apprendre et entre la vie et l'apprentissage. Ah, alors, pour revenir au thème du colloque aujourd'hui, c'est les compétences et badges numériques. Et donc, il y a une question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit avoir des badges pour les compétences ou on doit avoir des compétences pour les badges? C'est pas tout à fait la même chose. Hein, des badges ou les compétences pour la reconnaissance. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les deux, mais je pense que c'est important de se poser la question de quelles compétences pour les badges aussi. Alors ça, c'est une phrase, je vais vous la lire. « Il fallait se bourrer le crâne, qu'on le veuille ou non. Cette coercition eut un tel effet dissuasif qu'après avoir passé l'examen final, pendant une année entière, je trouvais l'examen de tout problème scientifique déplaisant. » De qui est cette phrase? J'ai entendu. C'est Einstein, en se remémorant ses études polytechniques de Zurich. On est bien là. C'est-à-dire que quand on est dans un système de reconnaissance par les notes et les examens, on aurait pu perdre un des plus grands génies. En plus, il n'avait pas un grand QI, hein, je crois qu'il avait 130 de QI, hein, donc, mais c'était quand même un des plus grands génies du XXe siècle. Hein. Donc quand on pense à la question de la reconnaissance, il faut savoir qu'il y a des systèmes de reconnaissance qui peuvent être extrêmement destructifs. Les notes, mais les badges aussi. Bon, j'y viendrai. Les décrocheurs scolaires, c'est typiquement un problème de reconnaissance. Je vous renvoie à un article, vous pouvez le télécharger, décrochage, l'importance de la reconnaissance. L'absence de reconnaissance conduit au décrochage scolaire. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, les pauvres chéris, ils ont décroché, ils n'ont pas de diplôme, ils ne sont pas reconnus. Mais la reconnaissance, ça vient en amont. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'ils n'étaient pas reconnus à l'école qu'ils décrochent. Donc le problème de la reconnaissance, c'est un problème absolument central. Si on veut résoudre... Moi, j'avais été invité avec des collègues finlandais pour faire de la formation à la pédagogie active nos amis suédois en Tunisie. Et nos amis tunisiens pensaient que, grâce aux pédagogies actives, ils allaient réussir à mieux enseigner. Mais le problème, ce n'est pas le gimmick de la pédagogie active, c'est le problème de la reconnaissance. Si on ne reconnaît pas les gens, si on ne reconnaît pas qu'on a un être humain en face de soi, qu'on a simplement... une espèce de sous-humain qui est un élève, on a un vrai problème. Donc, la pédagogie, ça commence par la reconnaissance. Le premier acte pédagogique, c'est un acte de reconnaissance. Et l'exemple que je cite souvent, c'est quand vous avez un réfugié qui arrive en France, qui ne sait pas parler français. Quand je vais voir un pédagogue, il va me dire « Ah, j'ai une super méthode pour lui apprendre le français. » Et puis un autre qui va dire « Non, j'ai une méthode qui est encore meilleure que la tienne. » Moi, ce que je propose, c'est de dire « Raconte-moi ton histoire. » On commence par reconnaître la personne. On ne la met pas dans une position de rendre visible son déficit. « Tu ne parles pas français, j'ai la méthode pour que tu apprennes le français. » On la reconnaît comme personne. Et je pense que la question de la reconnaissance, c'est un élément absolument central si on veut avoir une pédagogie qui ait un sens. Alors, les open badges, ce n'est pas inoffensif. Attention, on croit que c'est inoffensif, et y a un danger, ce n'est pas une faute de frappe, hein, le danger de formalisation de l'informel. Aujourd'hui, on a des espaces de liberté qui sont des espaces dits informels, en réalité, c'est des espaces ouverts, parce que ce qu'on appelle le non-formel, c'est ce qui n'a pas été colonisé par le formel. Et donc, on veut tout formaliser. Donc on avait des espaces libres, on pouvait avoir des fractures où il y avait dans le bitume où il y avait de l'herbe qui poussait. Non, on va mettre tout ça dans des référentiels et on veut à tout prix pouvoir formaliser l'informel. Et là, il y a un très très grand danger que la formalisation, ça devienne la formalisation. Et je voudrais citer notre ami Alfie Kohn, qui a écrit cet excellent livre qui s'appelle « Punished by Rewards », qui a dit la chose qui est pire qu'une récompense, c'est un prix. Et il dit la chose suivante, « Le fait d'opposer les étudiants les uns aux autres pour obtenir les meilleures notes prend la strychnine de la motivation extrinsèque et y ajoute l'arsenic de la compétition. » Et j'ai un exemple de badge qui est exactement, qui répond tout à fait à ça. Alors j'ai masqué les noms, hein, mais vous pouvez trouver les noms si vous allez sur mon blog, où un enseignant a décidé, j'offre une distinction numérique à mes étudiants, mais pas à n'importe quel étudiant, aux étudiants qui ont eu une mention très bien et félicitations du jury. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils ont des grades de 1 1, c'est le plus élevé, jusqu'à 5, n'a pas réussi. Et donc cet enseignant a décidé, alors que les gens ont déjà le diplôme, d'accord, ils ont déjà leur diplôme, de rajouter un badge à ça pour dire uniquement les gens qui ont eu mention ont droit au diplôme. Et ça, c'est ce que j'appelle un badge parasite. Vous voyez la belle tique, là ? Voilà. Et je dis, faites attention. C'est tellement facile de se dire, bah finalement, oui, je vais donner un badge pour tout et n'importe quoi. Et ce qu'a fait cet enseignant-là, c'est vraiment, c'est pas de l'inclusion, c'est vraiment, on prend des métadonnées et puis on en fait un badge. C'est un petit peu comme si le maire d'une ville décidait, tiens, je vais faire un badge pour tous les blonds aux yeux bleus. Bah oui, pourquoi pas ? Sauf qu'il y a la loi qui nous interdit de faire ça quand même. Mais qu'est-ce que fait le maire ? Il prend des métadonnées, il fait un badge à partir des métadonnées. Qu'est-ce qu'a fait cet enseignant-là ? Il a pris des métadonnées, il a fait un badge à partir de ces métadonnées-là. C'est-à-dire qu'il a donné un badge à des gens qui n'en avaient pas forcément besoin. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a non seulement réifié encore plus, mais il a mis dans un état de non-existence ceux qui n'ont pas le badge. Donc faites attention, le badge peut être un outil extrêmement destructeur, ça peut être un parasite et... Faites-vous vacciner. Il paraît qu'il y a un vaccin contre l'éthique maintenant. Donc, faites-vous vacciner contre l'éthique. Donc, face au risque des badges TIC, peut-être ce qu'il faudrait, c'est une éthique de la reconnaissance. Il y a un danger qui est le danger du plaquage. En allemand, ils ont une belle expression, mais ce n'est pas en français, c'est le plakatif. Hein, c'est plutôt en théâtre et tout ça, où vraiment c'est... Très, très. Le danger du plaquage, c'est-à-dire, je pense qu'il y a un vrai danger, à dire on prend un référentiel de compétences et puis on va mettre des badges pour chacune des compétences. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut faire très attention à ça. Parce que ça peut être de la fragmentation, hein, c'est-à-dire que j'ai vu des exemples où on est dans une logique, bah, tiens, mardi, on va faire la compétence 3.5.6 et... Ce qui est important, c'est que les gens s'engagent dans des activités globales dans lesquelles ils développent un ensemble de compétences et pas une activité pour une compétence, une évaluation pour une compétence. Donc, il y a d'ailleurs une bonne preuve de compétence devrait couvrir un ensemble de critères, un ensemble d'éléments, un ensemble de compétences et pas simplement une preuve qui ne couvrirait qu'un bout de compétence est a priori une très mauvaise preuve. Donc, il y a un vrai danger du plaquage sur un référentiel. Ça veut dire qu'il ne faut pas de référentiel. Hein. On a besoin de cartes, mais comme le dit très bien notre ami Alfred, la carte n'est pas le territoire. Alors là, j'étais un petit peu négatif par rapport aux badges, mais les badges produisent des résultats tout à fait étonnants. Lorsque IBM a introduit ses badges pour la formation de leurs clients, pour la Big Data Academy, ils sont aperçus que ça augmentait le nombre d'étudiants qui s'inscrivaient, ça augmentait le nombre d'étudiants qui allaient jusqu'à l'examen final, jusqu'au test final, ça c'est quand même pratiquement 700%, hein, en valeur absolue, 255 en valeur relative, hein, si on prend par rapport à l'ensemble d'une cohorte. Donc ça veut dire que le badge, il a un impact. Mais c'est Alors là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est le badge pour la motivation. Le badge, ça motive les gens. Mais là, là, on est plus, de mon point de vue, mais ça mériterait d'être discuté, dans le badge plutôt badge scout. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on rentre dans une communauté, on veut faire partie de la communauté IBM, que d'avoir un badge d'IBM, c'est un moyen de rentrer dans cette collectivité. Mais ça, c'était la formation externe. Maintenant, IBM a décidé d'utiliser leur badge en interne. Et donc, il y a 53% des employés d'IBM qui ont des badges aujourd'hui. IBM a distribué plus de 400 000 badges. Je crois qu'ils en sont à 500 000 aujourd'hui. Donc, c'est pas on fait un petit essai dans un coin pour voir si ça marche, si ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche ? Parce qu'ils ne se contentent pas de distribuer les badges que les gens vont mettre dans leur backpack et ensuite ils vont afficher sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'ils ont développé des applications autour de ça. Ils ont valorisé les badges en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec les badges dans IBM ? Ils ont décloisonné le système RH. C'est-à-dire qu'avant, les informations qui étaient possédées par le système RH, maintenant, elles sont à disposition de tout le monde. Ce qui veut dire qu'un ingénieur au fin fond de la Laponie est au courant, pourrait monter une équipe en faisant appel à l'ensemble des compétences qui sont distribuées à l'intérieur d'IBM. Donc ils se servent des badges pour rendre visibles les compétences à l'intérieur d'IBM, pour que chaque personne à l'intérieur d'IBM puisse avoir accès à ces compétences et puisse monter des projets. Donc ils ont développé des outils. C'est pas simplement parce qu'ils ont développé ils veulent donner des bons points que les gens vont afficher sur LinkedIn après. Donc là, quand vous allez réfléchir à l'utilisation des badges à l'intérieur de vos établissements, pensez d'abord en termes d'usage. À quoi vont servir vos badges ? Si vous pensez que les badges vont servir ensuite pour afficher dans un profil LinkedIn pour aller montrer un employeur, c'est quelque chose c'est une vision extrêmement limitée de l'emploi des badges. Et alors, Northeastern University, je veux toujours dire Northwestern, c'est Northeastern University maintenant, reconnaît les badges d'IBM comme des crédits pour les diplômes académiques. Alors là, on est rentré à fond dans la VAE. C'est-à-dire qu'avant la VAE, on se posait des questions, comment est-ce qu'on va faire, il faut faire un dossier de VAE et tout. Mais là, à partir du moment où on va rentrer dans une logique de la reconnaissance en continu, on va avoir des badges, des reconnaissances, notre dossier de VAE, il se construit naturellement. On va présenter son passeport, son backpack, son machin, et puis on va pouvoir faire valider. Et alors, ce qui est intéressant, ce qui fait donc la valeur des open badges à IBM, c'est leur usage par une communauté professionnelle et pas simplement l'affichage sur un profil. Alors, avec les badges, il reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Il faut inventer les services pour valoriser les badges d'hier et d'aujourd'hui, et inventer les badges, les reconnaissances, les pratiques de demain. Donc, par exemple, lorsqu'on a eu la conférence à Bologne, au mois d'octobre dernier, on a défini 10 défis pour les open badges, dont, en particulier, le premier défi, c'est l'utilisation des badges pour créer des réseaux locaux de reconnaissance. Comment se servir des badges comme outil de reconnaissance ? Parce que, imaginez une seconde, un diplôme qui a été validé par une université. Très bien. Imaginez que demain, un professeur de l'INRIA, ou un chercheur de l'INRIA ou MIT, valide les compétences d'une personne. Est-ce que ça vaut autant qu'un diplôme ? Être reconnu par un expert du domaine ? Vous vous souvenez de la discussion qu'il y avait il y a quelques années sur est-ce qu'on va autoriser les enseignants à publier leurs ressources pédagogiques ? Alors, avant, on se posait la question de est-ce qu'on va les autoriser à publier ? Maintenant, peut-être que les universités vont se poser la question est-ce qu'on va autoriser les enseignants à reconnaître ? Parce que peut-être que c'est là où il y a une vraie valeur. Peut-être qu'on va vouloir enfermer cette reconnaissance et dire que la reconnaissance ne peut être délivrée qu'à l'intérieur d'un établissement académique. Donc, il risque d'y avoir des choses tout à fait intéressantes. Donc, faire des espaces d'apprentissage formel, des réseaux de reconnaissance, c'est-à-dire à commencer à l'école déjà, et aussi à l'université, que ce soit des lieux où on apprenne, où on pratique la reconnaissance. Pensez que le badge, c'est un moyen et pas un but, et ça j'ai apprécié tout ce qui a été dit ce matin à propos des référentiels de compétences, tout ça de la compétence, c'est un moyen et pas un but. ne faut surtout pas que ce soit des outils de motivation, parce que si vous pensez que le badge, ça va servir à motiver les gens, c'est probablement que vous cherchez à motiver les gens pour les mauvaises raisons. Surtout, ne pensez pas utiliser les badges pour faire de la gamification. Je vous en supplie. Là, c'est quelqu'un de tout à fait qui travaille vraiment sur la gamification, qui écrit. Que nous dit cette personne sur la ludification ? Ce que nous qualifions actuellement de gamification, ludification, c'est en fait le processus consistant à prendre ce qui est le moins essentiel pour les jeux et à le représenter comme le noyau de l'expérience. On se dit, ah, on va gamifier notre enseignement, on va rajouter des badges. Les points et les badges n'ont pas plus de relation avec les jeux que les sites web et les applications de conditionnement physique avec les cartes de fidélité. Ce sont d'excellents outils pour communiquer les progrès et reconnaître les efforts, mais ni les points ni les badges ne constituent un jeu. Donc, casse-cou, j'ai vu beaucoup de projets, y compris nos amis de Surf, je ne sais pas si vous connaissez Surf, qui est l'organisation qui, en Hollande, travaille sur tout ce qui est dans l'enseignement supérieur et les technologies. Ils pensent à ces histoires de gamification. Donc je dis casse-cou avec ces histoires de gamification, parce que le badge n'est pas un outil de gamification. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Et le badge, c'est aussi une opportunité pour la VAE. Là, je cite Hager et Hallyday, et à mon avis, il y a une réflexion tout à fait intéressante là-dedans. À notre avis, les récentes tentatives des gouvernements d'essayer de formaliser l'apprentissage informel suggèrent une méfiance presque obsessionnelle du rôle du jugement par la personne elle-même, through agency en anglais. C'est comme si la communauté ne pouvait être fabriquée que par une éducation publique qui développerait un consensus où se chevauchent valeurs et principes généralement acquis. C'est comme si l'apprentissage informel risquait de fragmenter un tel consensus lorsque les gens poursuivent des intérêts d'apprentissage individuels pour acquérir des valeurs et des principes qui leur sont propres. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, c'est de dire que dans les espaces informels, il y a de la connaissance qui se produit. Je suis sûr que, comme sage-femme, il y a de la connaissance qui est produite dans la pratique de sage-femme. Et à travers les pratiques réflexives, c'est des choses qui remontent. Et donc, ça, c'est vraiment une opportunité pour que la VAE ne soit pas simplement un alignement par rapport à un cadre qui a été défini peut-être il y a 5 ou 10 ans, mais pour que la VAE soit aussi une validation de la connaissance produite dans les espaces expérientiels. Et donc, la question que je vous pose, c'est où est-ce que vous voulez mettre vos badges ? Vous avez tout cet espace-là. À vous de l'explorer. Et donc, on terminera par un autre philosophe qui dit, c'est Wittgenstein, qui dit en fin de compte, tout savoir se fonde sur la reconnaissance. Donc, on a commencé par la reconnaissance, on termine par la reconnaissance, et donc je vous engage à vraiment réfléchir avec nous sur l'importance de la reconnaissance, la façon de la mettre en œuvre dans nos établissements d'enseignement, tout court ou supérieur aussi. Merci.
Merci Serge. Moi j'avoue que j'adore les badges de rêve. Là c'est vraiment celui que moi j'ai repéré. Et les badges d'émancipation tout court. Donc c'est vrai que se pose vraiment, vraiment la question de la reconnaissance. Qu'est-ce qu'on reconnaît quand on... Là on est quand même dans une institution qui diplôme ses étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on reconnaît quand on diplôme nos étudiants ? Avec quoi on les fait partir ? Avec quoi est-ce qu'ils estiment eux-mêmes qu'ils partent une fois qu'on leur a donné un diplôme ? C'est vraiment des questions qui sont pour moi fondamentales et des questions qui peuvent permettre, par moyen de levier, d'adresser d'autres questions qu'on a traitées plus tôt, c'est-à-dire comment est-ce qu'on monte la formation, comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce qu'on fait l'approche par compétence, l'approche programme, parce qu'en fait, tout part, pour moi, de la fin, de ce qui est actuellement la fin, qui est le diplôme, et on dit au revoir à l'étudiant, on t'a posé l'étiquette sur le front, vas-y, c'est bon. Mais tout part de là, en fait, et on devrait tout construire notre offre de formation à rebours en disant, mais qu'est-ce qu'on veut que nos étudiants portent, Comment est-ce qu'on veut qu'il l'emporte? Quel type de reconnaissance est-ce qu'on veut qu'il bénéficie? Comment est-ce que les autres étudiants ne pourraient pas faire la reconnaissance des propres de leur père pour dire bah oui, celui-ci, il sait, il n'y a peut-être pas besoin forcément du regard d'un sachant qui soit là pour dire oui, toi, je te valide, je te mets l'étiquette et le code barre ou le badge. Mais ce sont vraiment pour moi les questions mais essentielles sur lesquelles je passe beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir toute seule dans mon coin. Et merci pour les badges de rêve parce que là, c'est vraiment, vraiment super. Anne.
Oui, moi j'ai une question. Je vous remercie beaucoup d'abord pour votre présentation parce que voilà, ça m'a permis de mieux comprendre ce qu'étaient les badges d'une part, mais ça nous invite tous à la réflexion, donc c'est toujours agréable quand même d'avoir des temps comme ça. Alors je comprends que vous disiez qu'il ne faut pas s'appuyer sur la motivation comme étant une accroche. Néanmoins, je pense que reconnaissance, motivation, c'est difficile de l'écarter, elle va forcément intervenir à un moment. Regardez les enfants qui, c'est bien des badges, là, la première étoile, la deuxième étoile, la troisième étoile, est-ce que c'est pas un peu pareil finalement? Et ils ont envie d'aller toujours plus loin, ils ont envie de... Est-ce que c'est pas cette reconnaissance qui contribue aussi à l'estime de soi, à la confiance en soi et à avancer dans les apprentissages?
Ce que les études montrent, hein, je renvoie au livre d'Alfie Kohn et aux autres livres, puis à d'autres auteurs, c'est que la motivation extrinsèque tend à détruire la motivation intrinsèque. Une expérience qui avait été faite, on a pris deux groupes de jeunes à qui on a dit « il y a un nouveau jeu qui vient de sortir et on vous demande d'avoir un avis sur ce jeu-là ». À un des deux groupes, on a dit « c'est une étude marketing, vous allez gagner 10 dollars ». Mais devinez ce qui s'est passé. C'est qu'au groupe à qui on a dit « c'est un nouveau jeu qui vient de sortir », ils se sont pris au jeu. À ceux à qui on a dit « c'est 10 dollars », ils ont joué un petit peu, et puis au bout d'un certain temps, ils ont dit « ils sont où les 10 dollars ?» Et donc la motivation extrinsèque avait détruit la motivation intrinsèque qui était celle de jouer. Et donc là, il faut faire extrêmement attention. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années au Royaume-Uni, où là, c'était sur la question de praise. C'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu as fait, Coco. Hein. Le problème de praise, je ne sais pas comment bien le traduire en français, c'est que là, il y a des choses à dire, parce que ça dépend de qui le dit, comment c'est dit, etc. Mais ce que l'étude a montré, c'est que parmi les élèves qui avaient le plus de difficultés, qui étaient les moins doués, l'effet de praise avait un effet négatif. Et ce qu'on sait sur les enfants, c'est que, par exemple, lorsqu'un enfant prend la décision de rendre service, de faire traverser un aveugle ou d'aider une personne âgée, si on lui dit c'est... Où l'adulte vraiment montre « c'est très très bien ce que tu as fait », le problème c'est que ce qui était de son intention personnelle, maintenant, ne prend de la valeur que parce que c'est vu par les yeux d'un adulte. Et donc, il faut faire très attention à tout ce qui est motivation extrinsèque, que ce soit aussi bien de l'argent ou autre, ou y compris des faux encouragements, parce que ça peut détruire la motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'on ne fait des choses que parce que c'est bien vu par les adultes et pas parce que c'est de ma propre volition. Et là, il y a...
Si on n'a pas de retour, si on n'a pas ce feedback, on ne sait pas si ce qu'on a fait est bien ou pas.
On peut avoir un retour qui peut être non destructif. Mais ce n'est pas... Merci. Voilà, on peut dire merci. Mais si c'est le père ou la mère qui dit ah, « c'est très bien ce que tu as fait », normalement, ça peut avoir des...
Sébastien.
Merci pour votre présentation. Je dois avouer, je n'ai pas tout compris, loin s'en faut. Mais sans doute parce que c'est au moins loin de ma culture. Et je pense que... il faudrait sans doute se revoir et revoir une présentation comme ça pour que j'arrive à en inclure un peu plus de choses. Ce que je comprends par contre, c'est que la reconnaissance est au cœur du dispositif. Et de ce point de vue-là, moi je vois une différence fondamentale entre un système de badge et des diplômes par rapport à ce que disait Isabelle tout à l'heure. C'est que pour moi, un diplôme, c'est un compromis social entre une formation, une société, des anciens formés et des futurs formés. Et donc là, on est effectivement dans un système de reconnaissance, puisque à un moment donné, le diplôme ne vaut que parce que il agrège de la connaissance entre ces quatre entités et que ça fait évoluer le diplôme. Ce que je comprends sur les badges, alors si j'ai bien compris, je mets plein de bémols, vous voyez, hein, c'est que le badge sert un peu de devise dans cette structure de reconnaissance. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir les échanger, les capitaliser, les agréger pour créer des cercles. Alors là, par contre, moi, je me pose une question fondamentale. C'est que pour qu'on puisse faire tout ça, il y a une nécessité d'avoir un vocabulaire commun et une grammaire commune dans la rédaction des badges, parce que sinon, on est incapable de capitaliser. On le sait tous bien. Si on ne se pose pas la question d'abord, on est incapable d'y répondre, notamment quand on fait une enquête d'opinion ou des choses comme ça. Et là, j'arrive... Alors déjà, la première question que je me pose, c'est est-ce que j'ai bien compris sur cette nécessité de grammaire et de vocabulaire? Et puis ensuite, je me pose une autre question. Qui normalise? Qui décrit cette grammaire? Et puis vous avez dit que le pouvoir, dans ce cas-là, il est donné... on passe d'une structure où le donnant du badge a le pouvoir à une structure où la personne qui la demande, parce qu'il participe, prend du pouvoir. Alors ça, je vous suis bien dans cette logique-là. Mais par contre, si on a nécessité d'une normalisation un peu au-dessus, est-ce que le pouvoir n'est pas à ce niveau-là?
Pour le badge, ce qu'on normalise simplement, c'est le format des métadonnées. Donc la normalisation est très simple. Ensuite, on peut aussi se mettre d'accord sur des vocabulaires. Mais si on prend... C'était posé il y a quelque temps le problème du recrutement des data scientists. Bon. Donc AXA voulait recruter plusieurs centaines, plus de 1000 data scientists. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces data scientists? Il n'y a pas de formation de data scientist encore. Et donc, ça va se faire par analogie. On va essayer de trouver une personne qui va connaître d'autres personnes. Et donc, c'est là où il ne faut peut-être pas fétichiser les vocabulaires qu'on utilise, parce que les vocabulaires qu'on utilise, ils peuvent avoir une certaine valeur localement, mais pas forcément globalement, et que si on est reconnu par une communauté locale et que cette communauté locale est reconnue par une communauté globale, on peut avoir des tas de vocabulaires complètement indépendants, parce qu'à la fin, la reconnaissance ne se fait pas au niveau du vocabulaire, mais va se faire au niveau des personnes. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, un recruteur ou un RH ne sait pas bien faire une description de poste, comme des enseignants ne savent pas décrire des objectifs. C'est difficile. Si on prend un référentiel de compétences et qu'on décrit un poste qu'on veut pourvoir avec ce référentiel de compétences, on va décrire peut-être 10 ou 20% des compétences que la personne va vraiment devoir mettre en œuvre. On ne peut pas décrire de façon extensive l'ensemble des compétences qu'une personne va devoir mettre en œuvre dans son poste. Peut-être les principales. Mais il y a toutes les autres qui ne sont pas nommées, qui sont pourtant importantes. Comme, je sais pas, le fait d'arriver à l'heure, d'avoir un esprit d'équipe. Il y a tout un tas de compétences qui sont extrêmement importantes, qui n'apparaissent pas nécessairement dans le référentiel. Maintenant, il peut y avoir une autre approche. Ça, c'est l'approche analogique, analytique, où on dit, on a un référentiel d'un côté, on fait une description de poste, moi je décris mes compétences, on essaye de faire un match entre les deux. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça ne marche pas vraiment. En revanche, on peut peut-être avoir une approche que j'appelle analogique, en disant, je vais avoir quelqu'un comme vous, parce que vous, je vous connais, je sais quelles compétences vous avez, je sais pas forcément les décrire, mais je sais que chez vous, il y a tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les personnes qui sont comme vous. Les gens qui sont comme vous sont les gens qui participent peut-être aux mêmes conférences, qui ont publié dans les mêmes journaux, etc. Donc, l'analyse par compétences, elle est extrêmement pratique pour les experts que nous sommes. Mais ce n'est pas nécessairement le référentiel de compétences lui-même qui va nous aider à trouver la bonne personne. Et donc, ce qu'on est capable de faire avec les badges aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire en rendant les reconnaissances visibles, en rendant visibles les reconnaissances informelles, on est capable de mettre en œuvre cette approche analogique en disant, j'aimerais avoir quelqu'un comme vous. Quelles sont les personnes qui sont comme vous? Et du coup, avec les badges, on a cette possibilité-là qu'on n'avait pas avant.
Là,
la question pour l'enregistrement, c'est est-ce qu'on a besoin de badge pour ça ?
On a besoin de badges pour avoir ces interactions de réseau de...
Pas nécessairement, non. On est bien d'accord. Oui. Mais en revanche, on n'a pas besoin peut-être de 1000... Justement, on n'a pas besoin de 1000 badges, mais on peut rendre visible le fait qu'on fait partie d'une communauté et qu'on... Et donc, c'est un badge, c'est quelque chose... En tout cas, c'est une information qui est vérifiable, que vous appartenez bien à cette communauté et que vous êtes reconnu par cette communauté. Et donc, quand on se pose la question, par exemple, du badge, quelle est la valeur d'un badge au niveau mondial ? Je pense que c'est une mauvaise question. Parce que si un badge est reconnu dans une petite communauté, et que cette communauté est reconnue par d'autres communautés, donc du coup, on profite de la reconnaissance par la communauté pour avoir une reconnaissance mondiale. Donc la reconnaissance mondiale ne passe pas entre moi et le monde, elle passe à travers moi, dans une communauté qui est elle-même reconnue. Et donc la communauté joue ce rôle de tampon, d'espace de reconnaissance. Donc il faut des espaces de reconnaissance qui sont à dimension humaine. Ça peut être quelques centaines, quelques milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, si c'est des communautés professionnelles, je ne sais pas, des programmeurs Java ou autres, qui peuvent être extrêmement étendues. Mais elles sont reconnaissables. Et donc là, les badges, ça veut pas dire qu'on doit avoir des milliers de badges, on peut en avoir des milliers, mais là, l'idée, c'est de rendre visible cette appartenance à des communautés, cette reconnaissance au sein d'une communauté.
Donc on va prendre une question là-haut, il y en a ensuite une ici, et puis je vous ferai une petite annonce après.
Personnellement, je découvre, donc merci beaucoup. Je n'ai pas forcément tout compris, mais j'aurai plein de questions. Je vais me limiter à une seule.
Moi aussi, j'essaie de comprendre.
Hein. J'ai compris. la question que je voudrais poser, au début de votre propos, j'ai cru comprendre que le badge, c'était un outil de reconnaissance de la compétence informelle. Et à la fin de votre propos, notamment à travers l'exemple d'IBM, il m'a semblé que c'était beaucoup plus large que ça, que la compétence n'était pas seulement informelle, elle pouvait être beaucoup plus précise, technique, disciplinaire. Vous pouvez me préciser réellement ce qu'il en est ?
Le badge comme moyen de rendre visible les reconnaissances informelles, pas forcément ce que vous appelez compétences informelles. C'est rendre visible les reconnaissances informelles. Chez IBM, ils utilisent les badges pour rendre visibles les compétences qui sont en train d'émerger. Et ce qui se passe chez IBM, quand on pense référentiel de compétences, on est un petit peu comme avec OpenStreetMap. Vous connaissez OpenStreetMap ? Ce système de cartographie où tout le monde contribue à l'établissement de cette cartographie. Eh bien, on peut se servir des badges pour inférer le référentiel de compétences. Donc, ils se servent des badges pour rendre visibles les compétences qui sont en train d'émerger chez IBM. Et donc, il y a toute une gamme de compétences qui vont depuis des compétences extrêmement techniques à des compétences moins techniques. Je pense qu'ils sont plutôt dans le technique pour la plupart de leur badge. C'est émergent. Tout est émergent, comme la connaissance aussi est émergente. Ouais, c'est une propriété émergente.
Une dernière question.
Bon, moi, je vais redire ce qui a déjà été dit, mais un peu différemment. Moi, j'étais au degré zéro de la connaissance des open badges. Je pense que je n'ai pas beaucoup progressé. Mais peut-être que demain midi, j'en saurai plus. Parce que franchement, je n'ai toujours pas compris à quoi ça ressemble, un open badge, et comment. Quoi. Donc, je suis un peu visuelle, un peu basique comme fille. Donc, alors, j'aurais bien aimé voir comment c'est, quoi. Du coup, la question qui vous était posée, le levier dans la transformation pédagogique dans l'enseignement supérieur, je ne sais même pas si vous l'avez abordé. Excusez-moi.
Philippe, bon, 3 secondes. Trois secondes. Philippe et Christelle, ou Christelle et Philippe. 3 secondes. 3 secondes.
C'est lui qui montrait le plus de badges d'excitement.
Là c'est l'enseignant qui parle, hein, parce que c'est quand même mon vrai métier. J'étais en train de dire, ah ouais, tiens, moi je vois dans mon UE de master et tout, tel truc, pourquoi pas, qui n'est pas évalué, qui n'est pas reconnu, tiens, ça pourrait être peut-être un badge, enfin bon, voilà. Mais je me dis d'un coup, tout de suite, mais au fait, si moi je fais ça, est-ce que je ne vais pas avoir un problème avec mon université qui va me dire, mais qui es-tu toi, pour délivrer une sorte de diplôme bis, de complément au diplôme. Voilà, donc j'ouvre le débat en disant finalement, voilà, levier de transformation, oui, mais moi, ai-je le droit de délivrer un badge vis-à-vis de mon établissement ?
Alors c'est parce que tu ne m'as pas comme VP transformation pédagogique.
Et non, hélas.
Yes. Et puis on pourra demander tout à l'heure aux collègues de l'IAE qui vont confirmer ça.
Ça m'intéresserait vraiment.
Elles ont vraiment posé la question sous cet angle-là. Vraiment, c'était le besoin. Hein, c'était pas je veux faire des badges numériques. Là, c'était
le rapport à l'institution. Hein,
mais le rapport à l'institution, c'est que pour le moment, c'est passé en CFVU. On a la reconnaissance par les badges numériques des compétences qu'on a appelées les soft skills, que Patricia n'aime pas du tout ce mot-là, qui peuvent être.
Si, je n'aime pas que tu dises les compétences douces.
Oui. Alors, les compétences informelles ou les compétences personnelles ou les compétences non formelles ou voilà. C'est formel. Et donc, elles se sont posées cette question-là, et le badge, c'était un outil. Hein, mais c'est passé en CFVU, ça a été expérimenté pendant un an sur deux diplômes de l'IAE, et une fois qu'on a eu dégrossi l'aspect à la fois fondamental, technique, etc., et qu'on a vu que si les étudiants, ça leur plaisait, ça leur plaisait pas, les enseignants, les équipes pédagogiques, etc. Depuis la rentrée, c'est techniquement possible à tout enseignant de l'établissement de délivrer les badges sur lesquels ben, les équipes ont travaillé, parce que c'est ceux qui existent. Et que s'ils en veulent d'autres, eh ben, il n'y a pas de problème, il faut qu'on s'assoie autour de la table. Pourquoi qu'est-ce qu'ils veulent reconnaître, pourquoi et comment, et on les mettra en place. Mais, pardon ? Alors, ben, je ne vais pas leur manger leur présentation, mais c'est vraiment à la fois des badges de motivation et des badges de reconnaissance de certaines aptitudes qui ne sont pas décrites dans les diplômes. Et l'important, c'est qu'il y a eu un jury et qu'il y a eu un étudiant qui, sur la délivrance d'un certain type de badge, a été employé là-dessus parce que elles étaient proches de leur bassin d'embauche, de leur bassin professionnel. Elles savaient que ces compétences-là, les étudiants qui avaient des super performances académiques ne les avaient pas forcément, que des étudiants qui avaient des compétences académiques moyennes, des performances académiques moyennes les avaient et faisaient derrière des belles carrières, ce sont leurs mots, et qu'elles voulaient avoir une objectivation de ça, et que les professionnels les ont suivis et ont employé des personnes sur l'attribution de ces badges. Hein, Sylvie, elle est là, elle vous en parlera tout à l'heure. Ouais. Hein ? Voilà, donc. Voilà. Donc maintenant.
Juste pour répondre à l'objection, le badge est un outil de la reconnaissance. J'ai parlé de la reconnaissance. Maintenant, vous pouvez penser que je n'ai pas parlé de la reconnaissance, mais je pense que le sujet central, c'était celui de la reconnaissance. Ensuite, que cette reconnaissance, ça passe à travers des bons points, machin. Avec une image ou un programme, ensuite c'est l'implémentation. Ça, c'est la technique, elle suit derrière. Donc moi, ce que je vous engageais, c'est une réflexion sur la question de la reconnaissance, la place de la reconnaissance dans une pédagogie. Maintenant, vous pouvez penser que la reconnaissance, ça n'intervient pas dans la pédagogie, c'est quelque chose qui vient à la fin, quand on donne un diplôme, et puis ça y est, on se débarrasse. Donc je pense que j'ai parlé de ce à quoi sert le badge. Maintenant, bon. Oui, mais... Quand on définit les choses, on définit d'abord ce qu'on veut faire avec l'objet, et ensuite, on regarde si l'objet permet de le faire. Et ce qui s'est passé avec le badge, justement, c'est qu'on a fait le contraire. C'est qu'on a, on a défini ce que devait être l'objet, et ensuite, il fallait que ça suive. Comme on a dit en anglais, c'était « the tag wagging the dog », hein, c'est la queue qui agite le chien. Et là, j'essayais de faire le contraire, justement, de dire... Partons de l'objet du badge. L'objet du badge, c'est la reconnaissance. Et ensuite, regardons comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre, avec quelle technologie, c'est ce que Eric va montrer maintenant. Donc il y avait une certaine logique.